Bonjour, bonsoir et bienvenue à Sur la Transversale avec moi-même, Kevin Laramie. Aujourd'hui, avec Tristan D'Amour en studio. Tristan, comment ça va?
Ça va bien. C'est toujours le fun de parler Impact de Montréal en français. Je réalise que je le fais pas assez souvent et je suis bien content de le faire aujourd'hui.
Good. Tristan D'Amour, vous pouvez le trouver à @ Tristan D'Amour sur les réseaux sociaux. Mais Tristan, commençons tout de suite avec un petit résumé du match de samedi dernier, défaite de 2-0 de l'Impact contre le NYCFC à la maison. Dans quelques instants, nous allons voir les commentaires de Rémi Guerre, d'Anthony Jackson-Hamel et aussi de Zachary Broguillard. Mais si tu pouvais me résumer ce match en quelques phrases.
Je te dirais zéro tir sur le gardien adverse. Normalement, ça va très mal quand ton équipe peut pas marquer, peut pas tirer sur le filet adverse. Ça me faisait beaucoup penser au match Impact DC United à DC, au RFK, au Audi Field, où Wayne Rooney n'était pas là et ça s'est fait sentir assez fortement. Et DC United avait aucun tir sur Evan Bush. C'était pas très inspirant du côté Impact de Montréal. On s'est fait vraiment avoir contre un NYCFC qui, je dois le dire, Rémi Gard nous l'avait prévenu une semaine avant aux entraînements matinaux de l'Impact. Le NYCFC sur pelouse adverse, c'est pas le même club.
Non, puis c'est à cause de la grosseur du terrain. On pense souvent de la grandeur du terrain à Yankee Stadium, mais à quel point c'est difficile de jouer là-bas. Mais NYCFC, une équipe qui joue la moitié de leur match sur ce terrain, est même pas bâtie cette année pour jouer sur ce terrain. La différence avec le temps de David Villa. David Villa, il y avait des capacités techniques qui pouvaient utiliser le terrain à son avantage. Et malheureusement, NYCFC a connu des ratés cette année à la maison. Mais lorsqu'on voit Maxi Morales jouer sur un terrain adverse, on voit que c'est beaucoup demandé au milieu de terrain, parce que je crois que c'est là que l'Impact a perdu la bataille, ce match-là, au milieu de terrain. Mais c'est beaucoup demandé au milieu défensif et à la défensive de stopper un Maxi Morales en pleine forme.
Ah non, Maxi Morales sur la pelouse du Stade Saputo, on parle de c'est une autre affaire. Là. Mais ça aussi, je veux dire, même le but, le deuxième but dans la deuxième mi-temps, c'est Orji Okwankwo en repli défensif qui essaye de faire de son mieux. Qui envoie une passe directement sur, je me souviens plus exactement le joueur, mais c'était brouillon sur deux jeux. C'est deux jeux, ça m'a fait beaucoup un peu penser à Philadelphie aussi, où c'est deux erreurs défensives où l'Impact se fait prendre tôt en première mi-temps. Mm-hmm. Et on sait à quel point l'Impact tôt en première mi-temps, c'est pas leur fort.
Non, hein?
La majorité, la statistique, je sais pas si elle tient encore.
Parce qu'ils n'ont pas encore marqué en fin de semaine. Donc, 6 sur les 12 buts ont été marqués après la 75e minute cette année pour l'Impact de Montréal.
Donc, tu t'attendais à ce que l'Impact revienne au score, l'Impact revienne au moins dans un certain sens en termes d'attitude. Rémi Garde avait dit après le match qu'il était content de l'attitude de son club. Si tu me permets de jouer les columnistes un petit peu, parce que je le fais pas souvent, moi je peux rester sur ma faim. On a vu certaines choses, on a vu pour la première fois Maxi Routy jouer en même temps qu'Anthony Jackson-Hamel. J'en aurais pris un peu plus. Ouais. Je me serais attendu au moins à un tir au but. Je sais pas si c'est trop demandé, Kevin.
Non, c'est pas trop demandé. On a vu par exemple à quel point la formation de New York avec un 3-4-3 a vraiment donné de la difficulté à l'Impact d'adaptation. Et Rémi Garde, avec le schéma tactique, a essayé plusieurs fois durant le match de trouver une façon de briser la brèche défensive de New York sans jamais trouver la solution. On a vu ce 3-4-3 qui fait que l'attaque peut se retrouver avec 5 joueurs d'attaque des fois parce que tu as les alliés défensifs ou attaquants. Il joue 3 positions en même temps. Donc, tu peux passer de 5 défenseurs à 5 milieux de terrain à 5-6 attaquants comme ça. Et je pense que l'Impact n'a jamais trouvé le moyen de stopper cette pression-là. Il était toujours une fraction de seconde, pour ne pas dire une fraction de minute en retard sur les duels aussi durant ce match. Mais tu as mentionné le début du match, les 30 premières minutes, je pense qu'ont été très difficile pour un Zachary Broguillard et Novilo. Pas juste Broguillard, mais Novilo aussi, du côté droit de l'Impact. Je ne sais pas si c'était planifié par Domé Thorin. On n'a pas réussi à lui demander non plus parce qu'il y a une certaine barre de langage ici. Mais c'est sûr que Broguillard a été ciblé durant ces 30 dernières minutes-là. New York faisait 7-8 passes juste pour se retrouver dans l'axe de droite, juste pour être sûr d'attaquer le jeune joueur. Le plus jeune joueur de l'équipe sur le terrain à ce moment-là était le joueur aussi le moins expérimenté à MLS. Et je pense que Domé Thorin a voulu prendre avantage de ça. Et on a vu Ben Sweat marquer. Ben Sweat créer l'opportunité pour Morales de prendre le rebond et marquer le premier but. Six minutes après le début du match. Du côté droit, du côté de Broguillard. Et ça n'a pas été facile pour les 30 premières minutes.
Oui, exactement. Zachary Broguillard, c'est drôle parce qu'on s'en parlait avant le match. Je m'attendais à un bon match de Zachary Broguillard. Je m'attendais à ce qu'on voit. C'était son opportunité. C'était son opportunité de briller avec Sania blessé. Mais d'un certain sens, t'as complètement raison. J'ai pas vraiment besoin de savoir ce qui était dans la tête de Domé Thorin pour savoir dans ma tête, à moi, que c'était là où le NYCFC allait s'imposer. D'un côté, on a Broguillard qui a quoi? Deux départs, trois départs.
C'était son deuxième départ. Troisième apparition, je pense.
En remplacement d'un gros nom en MLS quand même, en Bakary Sagna. Ouais. Et de l'autre côté, on a Harry Novilo qui n'est pas le joueur le plus rapide des joueurs de flanc de l'Impact.
Non.
Donc, il y avait un jeu à jouer et Ben Sweat l'a fait d'une façon remarquable pour le premier but. Et c'est ça, il fallait arriver. C'était un très bon plan de match pour le NYCFC d'arriver et de tout de suite s'imposer sur la pelouse du Stade Saputo et d'obliger l'Impact à jouer de ce qu'on appelle du catch-up soccer, qui est ce que l'Impact fait le moins bien cette saison.
Et c'est drôle, hein? on remarquait même à un certain moment donné que l'Impact cette année, je pense que c'est la deuxième fois que je remarque ça au Stade Saputo même, que l'Impact donne le ballon à l'adversaire. Attaquez-nous, on est meilleur en contre-attaque. Fait, allez-y, essayez de contrôler, puis nous, on va vous prendre en contre-attaque, on va vous avoir. Mais l'opportunité n'est jamais venue. Jackson Hamel, premier départ cette saison pour lui, contre NYCFC. Et on a vu des efforts différents de Maxi Urruti. Et je pense que c'est important de mentionner, c'est pas que Jackson Hamel a mal travaillé, aucunement. Je pense que c'est juste un travail différent d'un Maxi Urruti qui va presser la défensive, mais surtout qui va fatiguer les joueurs adverses en étant toujours là comme une mouche fatigante à l'arrière des cheveux. C'est comme quand t'es dans le bois l'hiver, il y a toujours une mouche proche des oreilles, mais ça c'est Urruti. Mais si le défenseur n'a pas ça, il va avoir un petit peu plus d'énergie à la fin. Et pour un Jackson Hamel qui a été très, très efficace cette année en rentrant en fin de match avec une énergie, une explosivité de son jeu présente, il n'est pas encore fatigué, il n'a pas couru pendant 60 minutes déjà, et avec sa physicalité, peut prendre avantage de la fatigue des défenseurs. Le jeu inverse, je suis pas sûr que c'est l'avantage de l'Impact. Est-ce que, d'après moi, je me trompe en disant que Jackson Hamel peut peut-être apporter plus à l'Impact en étant un super sub et peut-être marquer plus de buts comme ça que s'il joue plus de minutes en tant que débutant sur l'attaque?
C'est intéressant parce que je me souviens pas exactement si c'est Paul Tenorio ou Jeff Router qui a écrit l'article sur Alan Gordon qui, une fois qu'il a compris qu'il était ce joueur-là, a vraiment pu relancer sa carrière en MLS, jouer avec le LA Galaxy, entre autres, plusieurs équipes.
San Jose Earthquakes.
Les Earthquakes.
Qui a connu énormément de succès avec les Earthquakes en 2013, si je me rappelle bien.
Mais oui, dans un certain sens, Kevin, on peut dire ça, parce que ce qu'on a vu de Anthony Jackson Hamel, du moins de l'Impact de Montréal, nous, on l'a très bien vu avec le FC Montréal, qui est capable de marquer des buts tout en commençant un match.
Oui.
Mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose parce que c'est tout ce qu'on a vraiment vu d'Anthony Jackson Hamel depuis qu'il joue avec l'Impact de Montréal. Est-ce que je suis un peu déçu de ce qu'il a pu apporter? Dans un certain sens, oui, mais je veux dire, pour l'instant, le schéma tactique de Rémi Garde reste un 4-3-3 et il est très réticent à changer ce schéma-là avec ce qu'il a en banque. Mais dans un certain sens, Kevin, il y a une complémentarité entre le jeu d'Urruti et le jeu de Jackson Hamel. Si jamais on peut voir plus que ces 30 minutes-là où il y avait quand même un stress de... Il y avait un stress de marquer. Il n'y avait pas nécessairement les mêmes habitudes de commencer comme si on commençait un match à 0-0. Mmh. Ouais. Il y avait une pression. Donc, si jamais il y a matière à peut-être jouer avec son effectif, pourquoi pas essayer de les mettre en les deux dans un... Pas nécessairement dans un 4-4-2, peut-être même un diamant.
Oui, un 4-4-2 de diamant, oui.
Un 4-4-2 en diamant, oui, on peut quand même avoir des joueurs sur les flancs, on peut avoir un 10 peut-être, on va peut-être parler de Brownie un peu plus tard dans, mm-hmm. dans l'émission, mais si on regarde les belles années d'Urruti en MLS, il y avait un target man, il y avait quelqu'un qui mettait les ballons dans le filet, qui jouait avec. Donc, est-ce que ça aurait matière à peut-être essayer ça?
Genre un 4-4-1-1 même, je pense que quelque chose que, juste de voir Urruti un petit peu reculer, par rapport à un Jackson ou par rapport même à un Kwankwo qu'on a déjà entendu parler au début de la saison qui pourrait être utilisé comme attaquant de pointe. Mais je pense que c'est ce qu'on voudrait voir. Je pense que ce que tu essaies de dire, Urruti peut-être plus en 10 ou en milieu créateur ou en attaquant retiré avec un partenaire de jeu devant lui qui peut réussir à économiser du temps avec le ballon, laisser son partenaire de jeu se placer et lui terminer la phase de jeu.
Mais même dans un système où c'est un 4-4-2 un peu plus à la régulière, je vois pas pourquoi on pourrait pas avoir un Jackson Hamel vraiment plus haut placé en target man avec même pas dans un système 4-4-1-1, mais juste avoir Urruti un peu plus en retrait, un peu plus conscient défensivement, comme il fait en ce moment dans le 4-3-3, mais avoir une option de quelqu'un up top, quelqu'un au-dessus. On va probablement revoir Bakary Sagna dans les prochains matchs, mm-hmm. qui, on a déjà vu ses capacités de centrer le ballon. Ça a de l'allure. Si on peut avoir quelqu'un qui met le ballon dans le filet, on sait Jackson Hamel est bon avec sa tête. Pourquoi pas? Pourquoi pas avoir quelqu'un comme ça? Et un autre point que j'aimerais amener, qu'on s'est parlé juste avant d'enregistrer, c'est la première fois, lundi dernier, mm-hmm. lundi à l'entraînement de l'Impact, que j'entends parler de Harry Novillo comme joueur axial de la bouche de Rémi Garde. C'est une question qui a été posée. Je vais donner le crédit à Jérémy Filosa, c'est lui qui a posé la question. Il a posé la question par rapport à Harry Novillo et est-ce qu'il y aurait matière à peut-être le placer un peu plus dans l'axe. Et la réponse de Rémi Garde était que c'est, oui, un joueur qui aurait des promesses à jouer dans l'axe, mais le deal était, pour l'instant, quand ils ont mis encre sur papier, que le deal était qu'il jouerait sur le flanc. Okay. Maintenant, on a Omar Brownie.
Qui n'était pas là lorsque Novillo a été signé pour commencer.
Qui n'était pas là et qui joue un peu le même sur la même position avec une option en plus de pouvoir être un joueur qui rentre à l'intérieur un peu à la Justin Mapp.
Ouais.
Moi, j'aime bien Justin Mapp, mais j'aime bien le rappeler le plus souvent possible.
Justement, Justin Mapp qui sera à Montréal le 23 juin pour le match des célébrités de Patrice Bernier contre Ronaldinho Gaúcho. Donc, vous allez pouvoir voir Justin Mapp. Et Justin Mapp est à l'émission il y a environ 6 mois aussi.
Mais juste pour fermer la parenthèse, est-ce que l'acquisition d'Omar Brownie et le fait qu'il n'y a pas eu d'autres acquisitions de l'Impact, est-ce que on pourrait peut-être voir un Harry Novillo utilisé un peu plus dans l'axe? Comme ça, ça te donne trois joueurs, trois attaquants axiaux dans la banque. Donc, tu peux en jouer deux tout de suite pour avoir une option pour peut-être le remplacer. Donc, il y a certaines options. Est-ce que Rémi Garde va vouloir changer son système? Il reste très réticent. Donc, ça sera pas pour un futur rapproché.
Non. Parlant de Rémi Garde, je pense qu'il est temps. On est rendu dans ce moment-ci de l'émission où on va aller écouter les commentaires d'après-match de Rémi Garde après cette défaite contre le NYCFC, suivi de Anthony Jackson Hamel et ensuite de Zachary Broguillard. Mais pour commencer, voici l'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal, M. Rémi Garde.
Coach, un dispositif tactique de l'adversaire, ce 3-4-3 qui a semblé décontenancer un peu vos hommes. Vous avez essayé plusieurs choses. On a vu un 4-4-2 à un moment donné, un 5-3-2. Vous avez essayé plusieurs choses sans succès. Comment vous évaluez la performance des vôtres face à ce schéma?
Ben, je crois que on a pris, comme à Philadelphia, on a pris des buts au très mauvais moment. Quand on joue à domicile et qu'on prend un but au bout de 6 minutes, surtout contre cette équipe qui aime avoir des espaces, le plan de jeu c'était justement de, comme ce qu'on sait bien faire, de fermer les espaces et de ne pas, pas favoriser leur circulation de ballon. Mais quand vous êtes mené au bout de 1-0, c'est vrai qu'on a eu envie d'avancer un peu plus. Et là, leur dispositif était difficile à contrer, on a fait beaucoup d'efforts. Voilà, et puis malheureusement, on a repris un but en tout début de deuxième mi-temps, comme à Philadelphie, où voilà, ce sont des moments cruciaux du match. Donc on aurait aimé, comme on l'a vu sur cette deuxième mi-temps, réduire le score. Voilà, mais quand vous êtes mené 2-0, c'est pareil, il faut aller, on est allé chercher un peu plus haut dans divers dispositifs pour essayer de contrer leurs joueurs dans les couloirs, qu'ils trouvaient un peu trop facilement. Voilà, bon, ça n'a pas marché.
Rémi, on a beaucoup parlé du travail que faisait Maxi Urruti pour épuiser les défenses adverses. Là, on a vu un autre style, celui de Jackson, qui mise peut-être un peu plus sur l'opportunisme. Est-ce que le fait que Maxi n'a pas été là pour user la défense adverse a pu influer sur le cours du match?
En fait, ce que j'ai envie de souligner, c'est comme vous l'avez dit, ils n'ont pas les mêmes. Jackson n'a pas les mêmes caractéristiques que Maxi. Bien sûr que Maxi épuise et use les défenseurs physiquement et psychologiquement parce qu'il les harcèle toujours, mais Jackson a fait un bon travail par rapport à ça aussi, je trouve, avec ses moyens à lui. J'aurais aimé qu'on le trouve un peu plus dans le dos des défenseurs, mais encore une fois on n'a pas pu le faire. Voilà, maintenant c'est collectif, il faut toujours analyser collectivement. C'est un mauvais résultat, mais je dirais que sur la deuxième mi-temps, il y a eu des moments très difficiles où on était un petit peu à la limite de la rupture. Mais ce que j'ai aimé, c'est que l'équipe a répondu. C'était un jour sans au niveau des buts, au niveau du résultat, mais pas au niveau de l'attitude. Et ça, c'est important pour la suite.
Rémi, ça fait plusieurs matchs déjà. Je crois que depuis le troisième match, vous n'avez jamais marqué en première demi. Jusqu'à quel point, à un moment donné, ça devient risqué, puis peut-être difficile aussi de ne pas aller chercher ces buts-là tôt dans le match ou peut-être vous donner un coussin?
Oui, on aimerait marquer. C'est pas une stratégie, hein. On se dit pas qu'on veut pas marquer en première, mais je vois ce que vous voulez dire, un plan de jeu un peu plus sécuritaire, on va dire. Mais je crois que contre cette équipe, c'était important. On avait regardé toutes les équipes qui avaient joué contre eux à domicile, et je l'avais dit aux joueurs, c'est une équipe qui est plus à l'aise à l'extérieur que chez elle, parce que les terrains sont plus grands, parce que les adversaires se livrent plus. Donc je reste persuadé que si on n'avait pas pris ce but au bout de 6 minutes, on serait rentré dans le match, on serait monté en puissance comme on l'a fait là. Malheureusement, c'est pas comme ça que le début de match s'est déroulé.
Coach, it seems like when the team is forced to open up at times, it's difficult for them to do so. Why do you feel like that is?
Maybe because we miss our best player for a long time now. We don't have to forget that. It's difficult. Maybe also because we haven't played so many games at home. Now it was the third one, but you know, we had a strategy to play on road game, and now we are at home. But I have the feeling that we could have deserved one or two goals in that game. I think Safi had a very good opportunity in the first half. OG also in the set pieces. Then you know, it's not like we didn't created nothing, or like we have been overflowed by the opponent. You know, it's a good team. They play the good football. But once again, I'm not so disappointed about the way my players fight on the field, and they try to do anything to score at least a goal to come back. And for me, once again, when you have this attitude, you can say, okay, we're going to try to recover, and we are ready to go to the next one.
On a more positive note, it seems like even dating back to last year, whenever you guys lose, you're able to bounce back in the following game. How much confidence can you draw from that going into a busy game?
You know, we now we are again on the road with two games. Then it's always different. I only hope that I will have players that are fit to play, because as you know, we have quite a lot of players that suffer from light injury, but injury as well. Then this is my main concern until the next game.
You said you're not disappointed. What word would best describe the team's performance today?
The fact that once again we were down on the score very early in the game, and it's never a good situation at home, especially against a good team. Then I think that we have been patient not to concede too early another goal in the first 45 minutes. We were quite confident half time that we could come back on the score, and the attitude was right. I mean, the desire to score, the desire not to concede another one, even after 2-0. I saw many players that run back with high intensity and defend for the team, which is good. In some games we didn't have that, and we could have lost with more difference, which was not the case today. Then once again, you cannot be so pleased after defeat, especially at home, but I think the collective attitude has been good tonight, and I'm very disappointed for the players regarding all the effort that they have made.
Coach, sans rentrer dans le personnel ou dans l'individuel, mais sa pétalère semble un peu loin de son niveau optimal. Est-ce que c'est des ennuis physiques qui traînent, qui l'empêchent justement de performer à la mesure de ses capacités?
Je pense un peu, oui. Il a le courage de jouer malgré qu'il y ait des petits tiraillements, on va dire, musculaires. Je pense aussi que le retour de Nacho lui fera du bien, parce qu'il y avait une grande complicité avec Nacho sur le côté gauche. Mais il est vrai que Saphir a... techniquement aurait pu faire mieux aujourd'hui, mais par contre dans la force qu'il a donnée à l'équipe, dans le travail qu'il a fait pour l'équipe aujourd'hui, je pense que c'était remarquable.
Merci coach.
Un premier départ, surtout à domicile, mais c'était pas vraiment le meilleur match, la meilleure circonstance pour te mettre en valeur avec peu de ballons qui te sont arrivés, là, à peine une dizaine de ballons que tu as reçus. Comment tu as vu la performance des tiens aujourd'hui?
Moi, je pense qu'on n'a pas abandonné. Ça n'a pas été facile, surtout quand on prend un but rapidement comme ça. On s'est battu tout le match, puis à la fin, on a perdu, mais on a une chance de se reprendre dans 4 jours, donc c'est parfait.
Sur un plan personnel, pas trop décevant justement de ne pas avoir eu une chance de briller aujourd'hui?
Ouais, c'est sûr. Attaquant, tu veux des occasions de marquer. Il n'y en a pas eu aujourd'hui. Mais comme je te dis, il faut rebondir, puis le prochain match arrive vite, donc c'est une chance de se reprendre.
Qu'est-ce qui a manqué offensivement pour que ça clique un peu plus?
Je ne pourrais pas te dire, des fois, il y a des matchs comme ça où l'autre équipe, il faut leur donner du crédit, ils ont bien joué. Puis après, c'est de trouver des ballons vers l'avant, essayer d'être plus menaçant sur l'adversaire. Puis c'est ça.
L'Impact n'a pas gagné contre NYCFC depuis qu'ils sont en MLS. Qu'est-ce qui est aussi dur de jouer NYC à la maison?
Ça, on dirait que ça tombe sur eux, mais je sais pas, ils ont changé leur équipe quand même beaucoup de fois dans les dernières années, donc je pense pas que c'est à cause que c'est NYC, mais c'est peut-être juste que ça tombe sur des matchs où c'est plus difficile.
Le fait d'avoir concédé le but aussi rapidement en début de match, à quel point ça change peut-être la façon de jouer ensuite de votre côté?
Bon, c'est sûr qu'après le premier but, on veut pas nécessairement marquer tout de suite. On sait que le match, il reste encore 85 minutes à jouer. Donc, on sait qu'on peut prendre, je dirais pas prendre notre temps, mais on va être patient, on veut pas donner un deuxième but de suite à l'adversaire. Puis après, on essaie de courir après le score tout au cours du match. Puis à la fin, on ouvre un peu, puis on prend le deuxième.
Oui, merci.
Merci. avec un adversaire compliqué, avec un système de jeu peut-être qui vous a pris un peu de cours là, avec ce 3-4-3, pas beaucoup de place au milieu de terrain. Comment tu évalues la performance des tiens, mais aussi celle de l'adversaire aujourd'hui?
L'adversaire nous a posé pas mal de problèmes sur l'aspect tactique, énormément. On a eu du mal à se comprendre au sein du groupe. Après, on a essayé de faire de bonnes choses. Ils ont marqué au pire des moments, dès l'entame de match, puis dès l'entame de la deuxième période. Ça nous a fait un peu mal au moral, mais après, on a eu de bons sursauts offensifs en fin de première et dans la deuxième aussi. Après, on va rebondir. Il y a deux matchs qui nous attendent la semaine prochaine et c'est le plus important.
Au début du match, ils t'ont clairement ciblé. Je pense que c'est là que Kevin voulait aller. Ils jouaient beaucoup sur ton côté. Est-ce que toi, ça t'a fouetté? Puis finalement, tu t'en es super bien sorti.
Ouais, effectivement, j'ai mis un peu de temps à rentrer dans mon match. Les 5 premières minutes, elles n'ont pas été faciles. Après, le but, ils ont bien joué le coup. Certes, après, il faut voir sur la vidéo mon placement. Peut-être que j'ai mal su gérer l'aspect de mon latéral, de leur latéral gauche. Après, ils ont bien joué le coup, ils ont marqué. Après, sur ça, j'ai pu rebondir. J'ai mieux défendu, je me suis plus concentré sur mon aspect défensif au lieu d'être spécialisé que sur l'aspect offensif. Mais après, malgré tout, on a essayé de se relancer. Malheureusement, on n'a pas su marquer et ça viendra par la suite.
Faites perdre. Vous avez deux matchs qui vous attendent à l'étranger cette semaine, assez rapidement, mercredi, samedi. Ça, le fait de ne pas être capable de gagner ce match-là aujourd'hui, est-ce que ça vous aurait pu donner peut-être un peu de réconfort avant d'entamer ces deux matchs-là?
Oui, certainement. Après, c'est le football. Il y a plein de matchs dans la saison. Il y a des très bonnes équipes. Aujourd'hui, il y a eu meilleur que nous, même si sur certains aspects, ils ont été plus efficaces que nous. Mais après, on n'a pas su lâcher. On a eu de bons moments de conservation de balles et d'aspect offensif. Malheureusement, on ne repart pas avec des points à la maison, mais on espère à l'extérieur, dans les semaines à venir, qu'on ira de l'avant et ramener des points. C'est l'essentiel pour la saison.
Vous avez eu des bons résultats cette saison sans Nacho, mais est-ce que son absence commence à devenir un peu lourde offensivement?
C'est vrai que Nacho, il a un tel aspect offensif et il prend tellement d'ampleur dans notre jeu que c'est vrai qu'il nous manque dans notre jeu. Après, on a d'excellents joueurs aussi. Donc, malgré ça, on reste concentré sur la suite. Après, j'espère qu'il va bientôt revenir. Normalement, il va bientôt revenir. Donc, je suis heureux qu'il réintègre le plus rapidement possible l'effectif. Après, on verra bien.
T'es-tu nerveux en début de match pour ton premier départ à Montréal? T'as dit que tu as eu la misère à rentrer un peu dans le match. Parce que... Il y avait l'aspect de nervosité?
Non, c'était pas de la nervosité, c'était le feeling. Je me sentais un peu mou. Après, je me suis reconcentré, le coach m'a parlé, deux joueurs m'ont parlé, puis après, la machine s'est lancée. Donc voilà, après, c'est une première. J'espère faire mieux la prochaine fois, mais voilà.
Merci à Rémi Garde, Anthony Jackson-Amel et Zachary Broguillard pour leurs commentaires d'après-match après la défaite de 2-0 contre le NYCFC le 4 mai au stade Saputo. De retour à Sur la transversale avec moi-même, Kevin Laramie, avec aujourd'hui aussi Tristan Damour qui vous salue présentement. Donc, avant qu'on pense à autre chose, qu'on regarde le futur et qu'on parle un petit peu, Tristan, de la fenêtre des transferts qui se termine aujourd'hui en MLS pour quelques semaines seulement, je vais terminer la parenthèse du match contre NYCFC. On a parlé de Novillo, on a parlé aussi de Morales et de Zachary Bourguillon, mais je pense que Taider et ses blessures, Rémi Garde en a parlé, je pense que Taider traîne plus de blessures qu'il veut le laisser paraître, et je pense que ils sont en train de le rattraper, les blessures aussi.
Oui, c'est Saphir Taider qui est vraiment un certain... Il y a une allure de tough guy, à mon avis. C'est drôle, je lui parlais lundi et il veut vraiment pas manquer de match. Il veut vraiment pas. C'est vraiment la dernière chose qu'il veut faire, c'est manquer un match. Et surtout qu'il va en manquer des matchs parce qu'il y a des très, très fortes chances qu'il représente l'Algérie à la Coupe d'Afrique des Nations. Mm-hmm. Il va falloir qu'il en manque. Et là, il y a des soucis techniques, il y a des soucis de... C'est musculaire, mais il y a beaucoup de soucis musculaires chez l'Impact, ouais. Tu me diras, ouais. Kevin, mais même les bandages ont de la misère à tenir. C'est, ça va pas bien pour Saphir, mais Saphir est un élément tellement important à cette équipe de l'Impact de Montréal que si je suis Rémi Garde puis il me dit « Ouais, ça va, je peux jouer », c'est rare que je vais dire « Ah non, Saphir, assis-toi.
» C'est ça.
Bon, mais c'est drôle parce que Rémi Garde en parlait aussi. Le manque de Nacho Piatti, je crois, s'est fait sentir le plus samedi dernier.
Ben oui.
Nacho Piatti, et on le sait, tout le monde le sait, Nacho Piatti est tellement bon qu'il attire au moins deux joueurs sur lui à chaque fois qu'il fait une attaque. Et qui est le plus proche de lui? Saphir Taider.
Taider profite, je pense que lui qui profite le plus de la présence de Piatti sur le terrain pour l'espace qu'il a autour de lui et aussi pour le marquage défensif. Si je suis les adversaires de l'Impact sans Piatti, ben l'attention que je voulais donner à Piatti, je le donne à Taider. À qui d'autre? Qui d'autre a prouvé à MLS qu'il peut être un danger sur n'importe quel jeu présentement? C'est Saphir Taider. Je laisse plus d'espace à un Kwangwo ou un Novilo. Vas-y, bats-moi. Mais je me laisserai pas battre par le gars à qui on s'attend à qui je me laisse battre.
Mais aussi, tu sais, joueur désigné, international algérien.
Ancien joueur de
ancien
de
joueur
Bologne,
de FC Bologne.
Tu
sais, il y a quand même une bonne liste de... Une bonne liste, là. Puis au niveau vidéo, on le voit là, que Saphir Taider, c'est une des personnes qui est au ballon le plus souvent là, de l'Impact de Montréal.
Ouais.
Donc, c'est clair que ça échappe à personne que Saphir Taider est un des cadres offensifs de cette équipe. Et là, on nous dit que Saphir Taider n'est pas à 100%, mais là, c'est ça. Là, attends-toi pas à ce que Saphir ait une belle journée de plaisance contre New York Red Bulls demain ou contre le FC Cincinnati samedi.
On va voir avec un nouvel entraîneur pour le FC Cincinnati parce que si vous le savez pas, ce matin, FC Cincinnati a congédié Alan Koch, ancien entraîneur des Whitecaps de Vancouver dans le temps. Et,
dans le temps,
back in the day, back in the NASL days. Mais donc, on va voir un FC Cincinnati avec peut-être une nouvelle mentalité ou identité ou énergie, on va voir, mais... T'as mentionné demain, et je pense que c'est important que tu mentionnes aussi ce que tu as entendu parler à l'entraînement hier, de l'Impact, où Piatti voyage pas, Piatti disponible, pas disponible. Qu'est-ce qui se passe avec Piatti et les autres blessés pour le match contre New York ou peut-être pour le match contre Cincinnati ce samedi?
Là, ça s'est compliqué un peu depuis mon article, parce que mon article était que Nacho Piatti ne s'envolerait pas avec l'équipe au New Jersey, à Harrison, pour affronter les Red Bulls de New York. Bon, restez pas au bout de vos chaises, il jouera pas au Red Bull Arena. Mais de ce que certaines personnes ont entendu parler, il peut-être serait en route au New Jersey pour s'entraîner avec les joueurs, avec ses coéquipiers à l'Impact de Montréal. Evan Bush était très content du fait que ils allaient probablement s'entraîner sur du gazon cette semaine, même s'ils ne revenaient pas à Montréal. Pour ceux qui ne savent pas, la pelouse naturelle du centre Nutrilait est pire que la pelouse du Stade Saputo. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner.
Ouais.
Je suis sûr que si vous regardez sur mon Twitter de Nicolas Martineau, vous allez voir, il y a certaines photos des conditions en ce moment du terrain qui est... Écoute, j'ai entendu certains, je dirais pas des noms, mais certaines personnes disaient que c'était plus vert à Abu Dhabi.
Ouais, ben, donc, je pense qu'il est temps qu'on parte un Kickstarter ou un GoFundMe pour une bulle pour le centre Nutrilait.
Finir sur les infos, au début de la semaine, on me disait que Piatti ne voyagerait pas, il y a peut-être des chances. Et aussi sur Bakary Sagna qui ne jouera pas mercredi. Mais il a une petite possibilité que Sagna aille rejoindre l'Impact à Cincinnati pour peut-être affronter le FC Cincinnati. Ça dépend de sa condition.
Bon.
De ce que moi je sais, lundi il s'entraînait en solitaire. Je sais pas, j'ai pas été à l'entraînement aujourd'hui, je peux pas vous le dire exactement à 100%, mais donc il y a une possibilité. Donc, prenez ce que vous voulez de ça.
Alors, terminons le match contre NYCFC en parlant du côté positif Pour un deuxième match de suite, l'étincelle de l'Impact était Omar Brownie. Hashtag Lobster Brownie. Pour la victoire, peut-être pas cette fois-ci, mais Tristan, je dois t'avouer, plus je le regarde jouer, plus je le vois jouer, plus je remarque les qualités de Omar Brownie avec le ballon au pied, sa capacité de lever la tête, de faire des, ce que j'appelle des petits pas de fée, de garder le contrôle de ballon, de même pas avoir d'inquiétude avec le ballon, de regarder sa vision qui est causée à cause de son, sa confiance avec le ballon. On a vu des ce qu'on appelle en bon français des through balls, des belles passes entre deux défenseurs qui, lorsque le jeu, lorsqu'il se lève la tête et qu'il regarde le jeu, ça n'existe pas. Il voit la course potentielle de son attaquant. Il réussit à mettre le ballon entre les deux défenseurs. Et on voit l'attaquant, c'était Routier à ce moment-là, faire la course, se rendre au ballon. Il n'y a pas eu de chance de créer, mais on a quand même vu l'opportunité et la vision de Omar Brownie sur ce jeu. Je pense que Omar Brownie pourrait se valoir être une excellente aubaine pour l'Impact de Montréal en 2019.
Oui, on donne beaucoup, on critique beaucoup l'intelligentsia de l'Impact, Nick DeSantis Vassili, avec le nom que je suis jamais capable de...
Ouais, lui, là.
Lui, ouais. Oui, Vassili, qui est le whiz des numéros...
Krimzaïdis.
Oui, je suis désolé.
J'ai essayé, je m'excuse.
Mais du moins, le coaching staff, le front office de l'Impact, le deuxième étage de l'Impact de Montréal, c'est toute une aubaine quand même. C'est quand même tout un... Et là qu'on voit, tu sais, c'est un prêt avec option d'achat.
Achète-moi ça tout de suite.
C'est un, mais dans un certain sens, c'est qu'est-ce que l'Impact pouvait peut-être se permettre.
Ouais.
J'irai pas jusque dire ça, mais tu sais, c'était peut-être l'achat de l'année, peut-être pour l'Impact de Montréal. Mais de l'avoir vu, les petits glimpses qu'on a vus contre Toronto FC, ce qu'il est capable d'apporter et juste dans son deuxième match, quand il est rentré, moi j'étais surpris de voir à quel point il est confortable avec ses coéquipiers. Ça fait une semaine, ça fait deux semaines qu'il est avec, puis il parle même pas. Il se tient avec. À l'entraînement, il se tient avec Maxi, il se tient avec Nacho, parce que c'est les seuls qui parlent vraiment espagnol. Ça. Bon, Sanya parle espagnol.
Oui, il y a aussi Novilo.
Piet.
Puis Sanya, Piet qui sont. Qui parlent espagnol aussi, mais.
J'aurais. Au début, bon, Rémi Garde nous disait que il s'est jamais donné une faveur à un nouveau joueur de le titulariser trop rapidement. Mm-hmm. Je suis d'accord avec lui. Reste que il est très probable qu'on voit Omar Brownie commencer soit le match à Harrison ou le match à Cincinnati.
Ou les deux. Mais non, je suis d'accord. Et on n'est pas supposé, on couche pas le premier soir. Donc, on commence pas 90 minutes le premier match, d'accord. Mais là, on est rendu à troisième date avec Omar Brown. Puis troisième date, habituellement, si tout va bien, ben c'est le moment de donner 90 minutes.
C'est ça. C'est le temps de mettre les beaux sous-vêtements.
Ouais, c'est comme dirait Conor McGregor, c'est Red Panty Night. Puis c'est ce mercredi contre Toro Rouge que, selon moi, Omar Brownie va débuter le match.
Mais du moins, ses capacités offensives, ce qu'il est capable d'apporter au jeu, c'est vraiment... Ce qu'on a le plus proche d'Ignacio Piatti.
Oui, absolument.
Est-ce qu'il y a Ignacio Piatti qui, faut se le donner, il est vraiment en électron libre, il se promène où il veut, il cherche le monde, il cherche beaucoup plus le monde récemment que quand il a commencé avec l'Impact de Montréal. Ouais. Mais, tu sais, Brownie, dans un certain sens, et je crois que c'est son quirk d'être capable d'être un joueur gaucher à droite.
Ouais.
Qui est capable de rentrer à l'intérieur. Son premier but, le ballon qui est levé par Bastian Schweinsteiger qui essaye de le tacler, le ballon est dans les airs exactement à la bonne position pour son pied, son gauche. Bon pied.
Ouais, c'est vrai. Non, je pense qu'on va être très impressionné par Omar Brownie. Et selon moi, on est encore dans la phase lune de miel où Rémi Garde ne lui demande pas beaucoup de responsabilités défensives. C'est comme... Habitue-toi à l'équipe, habitue-toi aux joueurs, joue comme tu sais jouer. Je te complique pas la vie trop tout de suite, mais éventuellement, le système de jeu, tu vas devoir le respecter. Mais je pense qu'il y a encore un ou deux matchs qui peut se permettre de jouer comme il veut.
Mais c'est là que je mets un bémol, Kevin. C'est là que je me pose la question, est-ce qu'on commence Omar Brownie du côté droit sans avoir Bakary Sagna? C'est là mon problème.
Okay.
Parce que Bakary Sagna, s'il est là, premièrement, il y a la barrière de la langue, tu l'effaces parce qu'il y a une belle communication entre Bakary Sagna et Omar Brownie en espagnol.
Mm-hmm.
Et même, si tu ajoutes ça, tu peux même ajouter Maxi Urruti devant. Bakary Sagna, j'ai absolument rien contre Zachary Bourguère. On en a parlé au début de l'émission. Moi, j'adore ce qu'il apporte. J'ai été surpris de sa contre-performance contre NYCFC.
Il s'est bien repris, mais oui, exactement.
Mais est-ce que tu prends ce risque-là de mettre beaucoup de responsabilités défensives sur Omar Brownie, étant donné le jeu qu'on aimerait qu'il joue, et avoir Zachary Bourguère qui est quand même un ce qu'on appelle en anglais un liability,
un jeune inexpérimenté.
Donc, est-ce que tu prends ce risque-là sur la route encore? Bon, on est dans une belle période pour l'Impact de Montréal où, là, tranquillement, on commence à avoir des résultats sur la route, ce qui est, si vous suivez l'Impact depuis 2012, ça...
On peut les compter sur deux mains les matchs gagnés sur la route depuis 2012. Mais,
donc,
est-ce qu'on
utilise cette confiance-là? Est-ce qu'on utilise le hype de mettre Omar Brownie, de peut-être avoir son premier départ? C'est toujours... Peu importe comment vous décrivez Red Bull Arena, qu'il n'y a jamais de partisans là, blablabla.
C'est jamais facile.
C'est
non
jamais
plus.
Facile de jouer à Red Bull Arena. Donc, il reste quand même des questions à se poser au niveau Omar Brownie.
Non, je suis bien d'accord. Au niveau Omar Brownie, on va avoir plus de détails dans, selon moi, avec quelques matchs de plus de disputés de Omar Brownie, on va avoir plus de connaissances sur son potentiel aussi à long terme avec l'Impact et de voir comment il s'introduit dans un système complet et de voir à quel point il peut être positif côté défensif et offensif pendant que Liverpool vient de marquer un quatrième but.
Ils sont en train de marquer l'histoire. Là. Ça me fait penser à l'impact de la Ligue des Champions. Là.
Désolé, c'est rare qu'on parle d'autre chose et surtout de l'Europe, mais pendant que moi et Tristan fait l'émission, on enregistre en même temps que le match de Liverpool-Barcelone, le deuxième match d'aller. Match retour. Et c'était 3-0.
C'est
maintenant 4-3. Là.
Si Liverpool gagne ce match-là, petite tangente, là, ça, malade. C'est le genre de match qu'on va se parler, on va dire t'étais où quand ça s'est arrivé.
Ben moi j'étais dans mon studio avec Tristan pour parler de l'Impact.
On a de video evidence.
Ouais. sans Salah, sans Firmino, Alexander Arnold et Liverpool. Avec un jeu truqué. Oh my God.
Ah ça c'est.
Wow. Ok désolé mais je pense que c'est important. Si vous écoutez pas DAZN aujourd'hui, ben je vous payez le 20$ pour deux ans, puis écoutez la reprise du match de Liverpool contre Barcelone. 4-3 avec 15 minutes à jouer.
Pendant que mon téléphone est en train d'exploser.
Oui, c'est ça. Alex Perez doit capoter. Je suis probablement lui qui est écrit.
Shout-out à Alex Perez.
Shout-out to Alex Perez. Bon, on a assez parlé du match de l'Impact contre NYCFC. Regardons un petit peu ce qui s'en vient pour l'Impact. Donc, vous voyez les résultats récents. L'Impact qui a gagné contre New England, gagné contre Chicago, perdu contre NYCFC. Maintenant,
si
va.
Je peux me permettre, Kevin, tout un reste du mois de mai, par exemple, hein,
oui.
On a Red Bulls, qui est jamais facile. On a FC Cincinnati, qui vient de changer d'entraîneur.
Le 11 mai, à 1h au Stade Saputo.
Sur la route. Ouais. Le prochain match au Stade Saputo, c'est contre New England. Ça, c'est peut-être un match où il faut absolument aller chercher les 3 points. On a LAFC. Et pour finir, on a Real Salt Lake. Si je me trompe pas, ça aussi, c'est à l'étranger.
Ouais, exactement. Real Salt Lake, c'est à la maison. Oui, le 29 mai et le 24 mai à Los Angeles. Donc, on parle de deux matchs en 5 jours avec un voyage continent-continent, de côte à côte, comme on dit.
Contre, à mon avis, la meilleure équipe de MLS.
Ouais, LAFC avec un de mes joueurs préférés, Marc-Anthony Kay. Je pense que Marc-Anthony Kay, joueur canadien, un des milieux défensifs. Je pense que l'équivalent de Samuel Piette pour le LAFC, littéralement.
Je vais encore donner du crédit à The Athletic. Très bon article de... Ouais. Paul Tenorio sur Mark Anthony Kay.
Ah, Paul Tenorio qui était à l'émission Soccer Today hier, justement.
Oh, petit shout-out.
Petit plug. Mais donc, prochain match pour l'Impact demain soir, 8h, 20h, heure de l'Est contre le Red Bull à New York. Et ensuite, samedi contre FC Cincinnati. Encore une fois, sur la route. Et l'Impact fait un vrai voyage cette semaine. Il ne revient pas à Montréal dans tes deux matchs. Donc, quitter aujourd'hui pour New York et reviennent après le match ce samedi de Cincinnati.
Un vrai road trip et selon les joueurs, ça sera pas le plus gros road trip, ça sera pas le truc le plus difficile pour l'Impact. Je crois qu'ils vont prendre ce voyage tout de suite après le match au New Jersey. Ils s'en vont directement à Cincinnati. Et comme je disais, ils vont probablement s'entraîner sur de la pelouse naturelle. Ils vont avoir l'avantage d'être frais et dispo, du moins...
autant qu'ils peuvent.
Autant qu'ils peuvent en étant sur la route. Mais il n'y aura pas de voyagement. Et surtout que c'est... On a un match en soirée le mercredi et un match en après-midi.
En début d'après-midi.
C'est un kick-off à 1h de l'après-midi. Donc, il n'y a pas énormément de...
Il y a 2 jours et demi.
Exactement. Donc, c'est ça. Matchs, ils prennent avantage du fait on fera pas... on reviendra pas à Montréal, on fera pas tout ça. C'est pas vraiment bon pour moi parce que moi, je suis pas l'équipe à l'étranger, mais...
Pro Soccer USA, vous commandez, vous pouvez payer les petits voyages pour Tristan. Non, ouais. Un jour...
Non, j'adore... I love my publication.
Ouais, non, c'est ça. En passant, si vous n'êtes pas au courant, Tristan écrit pour Pro Soccer USA. Donc, si vous lisez la langue de Shakespeare, vous pouvez lire Tristan quasiment tous les jours ou tous les 2 jours sur Pro Soccer USA, parlant de l'impact... et de l'Association de l'Est principalement. Pour terminer l'émission, Tristan, nouvelle chronique à l'émission. Autant que moi, toi tu es un membre de l'Association nord-américaine des reporters de soccer, mieux connue sous le Soccer Reporters, et depuis cette semaine, nous avons lancé un nouveau joueur de la semaine pour la Ligue première canadienne, Première Ligue canadienne. Donc un joueur de la semaine et un joueur U23, donc un jeune joueur de la semaine. Et c'est avec grand plaisir que je vous annonce les 2 premiers récipiendaires de ce... joueur de la semaine, nous avons Kedell Thomas de Forge FC. Le joueur originaire de North York est rentré 2 fois en tant que substitut et a marqué les 2 fois pour être le soulier d'or présentement en Première Ligue canadienne. Et il est le premier joueur de la semaine de l'histoire de la Première Ligue canadienne, suivi de Noah Verhoeven. Le jeune joueur de 21 ans de Pacific FC a montré à quel point ses qualités techniques vont influencer le résultat des matchs avec une passe décisive sur le premier but de Pacific FC. Donc nous avons Kedell Thomas et Noah Verhoeven comme premier joueur de la semaine et jeune joueur de la semaine dans la Première Ligue canadienne.
Si je peux me permettre, Kevin, moi, j'adore le fait que non seulement il y a un joueur de la semaine, il y a un jeune joueur de la semaine. Pour le monde qui ne sont pas aussi habitués aux matchs de la Première Ligue canadienne, qui s'intéressent peut-être plus ou moins, qui se considèrent un peu comme des casual fans, il y a un règlement qui dans la Première Ligue canadienne qui oblige un certain nombre de joueurs en bas de 23 ans, c'est ça?
Oui.
Dans le 11 partant. C'est dans 3, le 11 partant?
Je pense que c'est 3.
Ce qui donne un certain un dynamisme au match, une certaine fougue que moi, personnellement, j'ai trouvé très...
Émile Legault ou Émile Noah Verhoeven avec Pacific?
Émile Legault, Verhoeven, qui m'a impressionné pour Pacific FC. Ouais. Il y a Tristan Borges, qui non seulement...
Il a un beau prénom.
Qui a un beau prénom, mais qui aussi a été... S'il y avait une statistique pour le nombre de fois qu'il prenait le poteau, je pense que c'est lui qui mène.
Lui, puis manquer le but par un mètre, par moins d'un mètre, je dirais Emery Washman.
Les deux,
mais oui.
Et si je peux me permettre un peu sur Kedell Thomas, quand même toute une histoire. Lui, il vient de League One Ontario, qui est l'équivalent de la PLSQ en Ontario. Et écoute, toute une histoire, pareil. Il marque un but, il marque le but égalisateur que je me souviens plus qui disait ça. Mais si c'était Zlatan, on l'aurait vu partout ce but-là.
Ouais, ouais.
Moi qui m'a ouvert les yeux vraiment sur le premier match, ça a été vraiment bien. Et qui devient le premier buteur multiple, qui est la première personne avec plus d'un but dans la Première Ligue canadienne, dans le premier week-end / première semaine
demie,
1
ouais.
ou 2. qui, à mon avis, qui a mérité mon vote pour le joueur. En fait, ça a reflété les joueurs pour qui j'ai voté. J'ai voté pour Kedell Thomas et pour Verhoeven. Donc, félicitations à eux deux. Petite mention spéciale pour Michael Petrasso, l'ancien de l'Impact de Montréal, qui a eu une très bonne première semaine avec Valor FC.
Oui, en tant que milieu offensif, même, je dirais un ailier droit offensif, quasiment même un numéro 10, même tout dépendant des moments du match.
Je me permettrais même une autre petite mention spéciale à Mele Temgia, l'ancien du FC Montréal.
Oui, monsieur. Mele, regardez, Edmonton 2, Valor 1, mais le premier but de ces 2 buts qui ont été marqués le samedi dernier, le 4 mai, était Mele Temgia qui a marqué le premier but de l'histoire de FC Edmonton. Et pour un défenseur,
ouais.
C'est assez surprenant.
Qui est le premier Québécois à marquer en Première Ligue canadienne aussi.
Ouais, ouais, ouais.
Et oui, c'est ça. ça. Donc, pour tous ceux qui ont supporté le FC Montréal pendant les deux ans, Elite Mguia, on se souviendra, était un des piliers de cette équipe. Lui et... bon, en tout cas, j'énumérerai pas tous les
Zachary
noms.
Zachary Sukunda. Shaquille Brossin.
Louis Bélanguayette.
Alexander Rigi, qui est encore à Phoenix, évidemment, dans les USL, et que je serais pas surpris de voir en Canadian Premier League l'année prochaine. Mais regardons un peu voyez un peu les résultats à l'écran de les premiers matchs en histoire de la Premier League canadienne. Tristan et moi sommes des grands fans de soccer canadien depuis longtemps, et surtout même depuis le temps du FC Montréal. On a couvert beaucoup de joueurs. Et même certains joueurs qu'on est capable de couvrir et qu'on a gardé contact avec. Je sais que pour moi, il y en a plusieurs, toi aussi, je sais.
Bien sûr.
Et c'est le fun de voir ces joueurs évoluer en Première Ligue canadienne. Donc, on dit un gros bonjour à Shakib, à Zach, à Louis Bélanguayette et à tous autres joueurs de l'Impact qu'on a côtoyés durant plusieurs années qui sont maintenant en Première Ligue canadienne. Donc ça, c'était les fleurs. Maintenant, Tristan, j'envoie le pot.
La brique puis le fanal,
je pense que la brique puis le fanal, je pense que le manque de contenu francophone est flagrant pour la Première Ligue canadienne. Le manque de respect pour le contenu francophone est là aussi. Le manque de volonté d'attirer les fans québécois pour la saison numéro 1 pour la Première Ligue canadienne, je pense que ça doit être mentionné. Et je trouve que c'est dommage. On connaît personnellement qui est en charge de cette ligue. Il y a eu plusieurs contenus créés par Tristan lui-même au début de la saison pendant les open trials, les journées portes ouvertes,
les essais ouverts,
qui, je dois l'avouer présentement, le contenu francophone qui a été créé était juste pour faire parler de la Ligue ici, mais je sais pas si c'est à cause du manque d'une équipe présentement, mais le contenu francophone, l'accès au contenu francophone est nul. One Soccer, il y a zéro pinbar en français et il y a zéro pinbar en français sur le site de la Première Ligue canadienne, et je trouve ça extrêmement dommage qu'on ne se permette pas de créer des nouveaux fans dans la deuxième plus grande province du Canada et dans le deuxième plus grand bassin de fans potentiels pour une ligue. On nous laisse comme ça sans contenu.
Je suis content que tu l'aies mentionné parce que je l'aurais mentionné en termes de full disclosure. Moi, j'ai écrit pour la Première Ligue canadienne. J'ai 4 articles en français. Au niveau de pourquoi j'écris plus en français, ça, je suis pas pour embarquer là-dedans parce que c'est pas nécessairement de mes oignons. Mmh. Est-ce que moi, si... Puis c'est drôle parce qu'on me pose la question de temps en temps. Pourquoi t'écris plus pour pourquoi t'écris plus là en français? On aimerait que t'écrives plus en français. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me l'ont déjà dit. Moi, c'est pas nécessairement que je veux pas. C'est que à un certain moment, il faut vivre de son...
Exactement.
C'est ça. Donc là, en ce moment, j'ai Pro Soccer USA que vous pouvez aller me lire là si ça reste du contenu tout à fait libre et gratuit. Mais également, c'est ça. Mais ça part, et là, je veux pas... Ben oui, dans un certain sens, derrière les chandails des équipes de la Première Ligue, c'est écrit « We are many, we are one ». Mais qu'en anglais.
Ouais.
Et je comprends, Kevin, quand tu me dis pourquoi se priver de la deuxième plus grosse province canadienne, mais il y en a une équipe dans la Première Ligue en ce moment qui pourrait avoir du contenu en français. C'est Valor FC.
Ouais,
parce que il y a du monde, il y a probablement s'il y a du monde en ce moment à Winnipeg, il y a des francophones dans Winnipeg,
il y a des francophones dans chaque équipe là. Équipe, il y a des Québécois dans chaque équipe dans la ligue.
Des Québécois ou des francophones, et Kevin, tu vas me le dire, il y a beaucoup de monde aussi, j'ai beaucoup aussi de franco-ontariens qui me suivent sur Twitter qui aimeraient beaucoup avoir du contenu en français.
À Vancouver, sur l'île de Victoria, j'ai un ami personnel qui est un grand fan de Pacific FC, Xav, qui est francophone. Et qu'on salue et bonjour. Mais exactement, donc c'est pas juste au Québec le fait français, et je pense que c'est dommage qu'on se sente un petit peu oublié, ou non, on n'a pas été oublié, on a été laissé pour compte dans les décisions prises par la Ligue canadienne, et je pense que malheureusement, c'est par manque de choix. Et ils ont un certain laps de temps avant que la saison commence. Ils ont un certain nombre de ressources. Et c'est un choix qu'ils ont fait de commencer avec le fait anglais et de tranquillement introduire, s'ils l'introduisent, le fait français. Et je pense que c'est un petit peu dommage, mais c'est surtout dû au manque de connaissances francophones. Lorsqu'on regarde dans les bureaux de la Ligue, il n'y a personne, et je dis pas une personne, qui parle français. Donc, c'est un petit peu pour ça aussi.
Ah, tout à fait. Est-ce que... Et là, c'est ça, on approche, c'est la semaine prochaine, le championnat canadien à qui on peut ajouter One Soccer, on peut ajouter le site de la Première Ligue canadienne. Est-ce que on va nécessairement avoir du contenu? Il y a encore des points d'interrogation là-dessus. Oui.
Je pense que meilleur, une des certitudes, c'est que si vous voulez suivre le match la semaine prochaine de l'AS Blainville à Blainville, au centre équestre à Blainville, contre le York 9 FC, suivez Tristan D'Amour, comme vous venez de le voir au bas de l'écran, suivez-moi, et sur Transversal, nous serons en direct du centre équestre à Blainville et nous vous donnerons une couverture, celle que nous pouvons vous faire. Donc, malheureusement, aussi, si on n'est pas encore sûr de la diffusion ou non, mais on va faire ce qu'on peut pour nous.
Si je peux me permettre aussi, aller au match.
Oui,
ça va être honnêtement.
Allez supporter Wandrill.
Supporter Wandrill, allez supporter Papouche, allez supporter Karajovanovic qui oui. On parle pas nécessairement de PLSQ en ce moment, mais reste que à mon avis, PLSQ, l'AS Blainville, c'est Juventus. C'est hey, ils sont allés.
L'AS Blainville, c'est l'impact en USA.
Ils ont le meilleur marqueur l'année dernière en ouais. Papouche Maillard. Ils ont été chercher le deuxième meilleur marqueur en Karajovanovic qui jouait à Gatineau. Donc, tu sais, si ça c'est pas pour aller chercher une bonne run dans le championnat canadien, je m'appelle pas Tristan D'Amour.
Non, mais je pense que le but d'un AS Blainville, c'est de réussir à s'établir encore plus sur la scène canadienne en étant peut-être la première équipe à battre une équipe de la première ligue canadienne en championnat canadien. Je pense que c'est le but de l'AS Blainville, c'est pas nécessairement de se rendre contre l'Impact, même si ça serait un grand. Mais si l'AS Blainville peut se rendre contre le Fury, déjà là, ça serait un excellent.
L'AS Blainville, dans leur calendrier, ils ont York et ils ont Edmonton.
OK, bon.
Donc, c'est York, Edmonton, puis l'Impact.
Puis l'Impact, OK.
Donc, c'est ça. C'est le but de Vandrill, d'aller ouais. chercher son match contre l'Impact de Montréal.
Wow, OK. Le retour de l'enfant prodige, Josette Saputo, serait extrêmement important. Mais la première Ligue canadienne, juste tes impressions rapides de ce premier fin de semaine de match. Est-ce que tu as aimé écouter les matchs sur One Soccer? Est-ce que tu as aimé les terrains, voir les stades, l'ambiance un petit peu à Halifax? En passant, Halifax a déjà annoncé qu'il y a une possibilité de l'agrandissement du terrain entre les deux saisons, entre la saison de printemps et la saison d'automne au Wanderers Ground, qui est situé juste à gauche des jardins publics de Halifax. Donc, déjà, un excellent début de saison pour les Wanderers avec une salle comble pour commencer leur histoire avec presque 5000 personnes. Donc, comment as-tu trouvé la Ligue en général?
Donc là, du côté médiatique ou du côté...
Comme tu veux, tes impressions en gros.
Sportivement, moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien. J'ai vraiment aimé le niveau. Moi, ce qu'on dit dans les sphères, du moins Twitter ou whatever... médias sociaux, c'est niveau D2, niveau USL, NASL.
USL plus haut. Mettons que USL plus.
Moi, j'ai toujours été un fan du soccer USL. J'ai toujours aimé, ça parce que moi, j'ai grandi un fan de l'Impact de Montréal, mais USL. J'ai grandi avec les Raging Rhinos de Rochester, les Kickers de Richmond. Ça vient chercher ce
le Charlotte Independence.
Ouais,
le...
tout ça, oui, c'est ça. Les Cleveland City Stars.
Oh my God.
J'ai grandi avec ça, donc ça vient. Il y a une âme de ça qui vient chercher un peu. Et je trouve que c'est le parfait mélange dans un certain sens parce que d'un côté, t'as ça. De l'autre côté, t'as comme cet aspect quasi. Ils viennent chercher quasiment l'aspect européen. Je veux dire, Spruce Meadows.
Le look familier, je pense.
Exactement.
Dire.
Le West Hill Stadium à Victoria qui est magnifique, honnêtement.
Mais surtout, tu sais, c'est pas des stades qui sont pareils. Ils ont tous des petits côtés
exactement.
Comme. T'sais, ça peut, les constructions sont pas hautes à West Hills parce qu'il y a une grande ligne électrique qui est au-dessus. Donc, les choses peuvent pas être hautes. Donc, le look est différent. Caméra plus basse.
Exactement.
Spruce Meadows, c'est les chevaux. C'est un centre équestre. Et on
exactement.
A le côté stade de championship européen un peu. Halifax, il y a rien d'autre que des estrades principalement. Mais ça donne un look qui est différent parce que c'est vert et il y a des arbres autour. Non, j'aime bien le côté familier de la ligue aussi. Je pense que... Je pense qu'on peut pas le dire aussi autant qu'on voudrait, mais Alex, Dépêche, on veut une équipe à Laval.
Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a,
Alex
Bunbury, il y a un certain, c'est ça, il y a un niveau, il y a un feel. J'aime le fait qu'il y a, il y a certains joueurs qu'il faut que tu mettes sur ton alignement, que ce soit des jeunes. On n'a jamais vu autant de Canadiens jouer en même temps du soccer professionnel. Mais en même temps, tu as des joueurs étrangers dans le mix.
Kodai Lida, c'est mon, ben, je pense que tu t'en rappelles de Kodai Lida.
Oui.
Lida était un jeune Japonais qui a pris l'avion du Japon pour arriver à Laval, au centre de Bois de Boulogne, avec sa valise le matin même des essais ouverts de la Canadian Premier League.
Je sais pas si je peux dire ça. Ouais, je pense que oui. Il est dans la ligue maintenant. Il a envoyé des emails pour tous les essais.
Ouais.
Il a agacé les gens de la première ligue.
Il a agacé Paul Byrne et surtout Anthony Totara et cette gang de joueurs, cette gang de contenu-là.
Pour que finalement, ils lui donnent un dossard. Et finalement, ils ont donné un dossard pour Montréal et il a
brûlé.
Écoute, moi j'étais, parce que pour les articles que j'ai écrits, que vous pouvez toujours aller lire, je crois, sur fr.canpl.ca, ils m'ont donné un certain accès où j'étais relativement proche des entraîneurs.
Ouais.
Je pouvais entendre tout ce qu'ils disaient et Ida, ils étaient vraiment impressionnés.
Il y avait trois joueurs qui ont vraiment impressionné les entraîneurs de la Ligue première canadienne à Laval. Son entraîneur Raphaël Garcia, qui est ancien latéraux pour l'Académie de l'Impact de Montréal, qui présentement joue pour Valor, qui a été repêché de cet essai ouvert.
Qui, en passant, a le tir le plus puissant de tous les essais au niveau coast-to-coast.
Oui, Raphaël Garcia, ancien de l'Académie de l'Impact de la région de Gatineau. Il y a aussi Brown, le jeune qui venait de la Grenade, qui a malheureusement pas trouvé preneur dans la Ligue, mais qui avait impressionné beaucoup. Et le troisième joueur qui avait vraiment impressionné les entraîneurs et les analystes à Montréal était Kodai Lida, le Japonais qui joue maintenant pour le Wanderers de Halifax et qui est, je dois dire, un de mes joueurs préférés dans la Ligue.
J'en ajouterais un, Mohamed Kuruma,
qui joue pour Halifax.
Qui
joue pour Halifax aussi, ancien de l'Impact aussi.
Exactement, ancien de l'Impact, qui a eu des essais en Europe, qui a joué en NPSL avec Miami. J'avais écrit un article
Miami
sur lui
FC,
justement.
Ouais,
Miami City ou je sais pas trop. Ouais. C'est pas le Miami que vous pensez.
pas l'adversaire du Cosmos.
Pour finir, oh mon Dieu. Pour répondre à ta question, au moins du côté médiatique, considérant tout ce qu'on vient de dire sur le contenu francophone de One Soccer, donc ça c'est dit. Moi, j'ai vraiment été impressionné par ce que One Soccer fait.
Uh-huh.
Le prix de la plateforme, à mon avis, c'est relativement c'est correct.
Mais
c'est,
je pense que l'augmentation de contenu dans les prochains mois, avec plus de contenu d'emballage, je dirais, donc peut-être plus d'émissions magazines par semaine. Et je pense qu'il y a déjà du contenu comme ça qui joue 24 heures sur 24 sur One Soccer, mais je pense qu'avec une augmentation de ce nombre de contenus-là, peut-être des émissions en studio avec des invités ou choses comme ça. Je pense que pour être bonifié un peu, mais c'est le début aussi de One Soccer. Mais ce qui me réconforte, c'est Media Pro. C'est l'identité et l'entité derrière One Soccer qui est la Liga, qui est, dans le fond, une entité extrêmement d'expérience dans ce domaine. Et je pense que c'est ce qui est positif. C'est dans le futur, on va voir des choses. Et présentement, si vous ne savez pas, chaque équipe, il y a des équipes de tournage partout avec les équipes de la Première Ligue canadienne pour créer un documentaire qui va parler de la première ligue, de la première saison de l'histoire de cette ligue que nous allons pouvoir voir l'année prochaine. Et il y a
Est-ce qu'on peut dire sur laquelle plateforme c'est ça?
One Soccer?
Non, le documentaire?
Je sais pas.
Ok, non, je peux pas dire d'abord. Je
dirai pas encore. Mais ça sera sur One Soccer et Media Pro crée ça. On va le voir. Il y aura beaucoup de détails de ça, mais ça va être des histoires à surveiller. Pendant qu'on voit Jürgen Klopp célébrer avec Barry.
Ouais, c'est définitivement un match où on va dire t'étais où quand c'est arrivé.
On est en direct, nous autres.
Oui, on est en direct, exactement. Mais juste pour finir sur ça, j'aurais aimé un peu plus, parce que ça fait pas 2-3 mois là, qu'on sait que la Première Ligue canadienne, ça va arriver. Là.
Ça fait un an et demi, si c'est pas
un an et demi, exactement. Oui, exactement. Moi, d'avoir Media Pro, sincèrement, Media Pro, pas nécessairement One Soccer, mais Media Pro, annoncer les prix la journée avant le premier match.
Dernière minute.
Je peux même ajouter le fait, les maillots.
Il y en a qui les ont pas reçus encore.
Mais les, je te dirais même pas ça. Ça c'est un autre point exactement. Mais quand les maillots ont été lancés, c'est Valor puis FC Edmonton qu'ils ont. Les deux ont One Soccer comme.
Oui, mais on a découvert.
On a découvert que One Soccer s'appellerait One Soccer. Quand ils ont annoncé les chandails,
nous deux ici là, qui en a parlé, on a vu One Soccer, on a fait comme Google, One Soccer, on a commencé à en parler, ben c'est quoi ça? Puis on a envoyé des emails, ça a pris 3 jours avant qu'on leur reçoive des questions, mais exactement.
On avait aucune idée. Donc, je veux dire, c'est bien beau le fait de, ah oui, avoir les... C'est clair, MediaPro, ils ont de l'expérience dans ce domaine-là. Mais moi, ce que j'aurais aimé, par exemple, si ça avait été à refaire et si moi j'avais été Oscar Lopez ou l'intelligentsia de One Soccer ou de MediaPro Canada, commence à faire tes magazines peut-être 2 semaines avant, peut-être 3 semaines avant, ouais. Fais des previews, je le sais pas.
Mais engage
un certain hype.
Oui, mais le partenariat a été décidé aussi quand même assez,
exactement.
Assez tardivement dans le processus parce que lorsque j'ai communiqué avec One Soccer pour avoir plus de détails, j'ai envoyé un questionnaire et je vous réponds, je vous ai lu les questions il y a quelques semaines ici à l'émission. Une de ces questions-là, c'était est-ce que il va y avoir des matchs qui seront diffusés à la télévision conventionnelle aussi durant cette entente? On m'avait dit, on peut pas vous annoncer quoi que ce soit d'autre, mais il y aura des matchs à la télévision conventionnelle et maintenant nous savons que c'est à CBC, Radio-Canada anglophone. Je pense pas que Radio-Canada francophone embarque malheureusement, mais ça c'est une autre histoire. Je pense que ça l'aiderait le fait français si une entité comme Radio-Canada français décide de prendre les
mais
droits.
Surtout quand on dit que Radio-Canada, c'est d'un océan à l'autre.
Oui, exactement. Bon, coast to coast comme la Ligue, supposément, mais c'est pas là que je m'en allais. Mais ce que je veux dire, c'est que on sait que le tout a été finalisé tardivement. Je pense que la Première Ligue aurait même aimé ça s'il était capable d'inventer 3-4 mois de plus. T'sais, d'être capable d'inventer un 3-4 mois, de faire comme Thanos, puis de prendre le Time Stone, mettons, là, puis de revenir 4 mois en arrière, puis de pouvoir se donner plus de temps pour créer la banque de contenu pour One Soccer, pour créer, littéralement, pour avoir plus de temps pour créer les chandails, les points de vente des maillots et des choses de l'équipe. Halifax a été retardé d'une semaine et demie d'ouverture du magasin de marchandises pour manque de marchandises. Et je pense qu'avoir un petit peu plus de temps, et c'est sûr, il y avait un certain engouement, et il y a plusieurs ententes commerciaux qui se devaient d'avoir un début cette année pour être valide. Donc, la Ligue se devait de commencer cette année à cause de plusieurs ententes qu'il y avait avec certains partenariats et avec des propriétaires comme Tom Fath à Edmonton qui dit « Moi, je veux rembarquer dans le soccer, mais je peux pas réembarquer et attendre et dépenser de l'argent, des salaires, sans avoir des revenus qui viennent rapidement.
Ouais. »
Et des revenus dans la Première Ligue canadienne, c'est les billets, c'est les commanditaires, mais c'est les billets des gens, des fans qui vont assister au match. Et certains propriétaires voulaient absolument que la Ligue débute cette année pour pouvoir commencer au moins à avoir un certain retour de leur investissement. Mais idéalement, si je me mets dans la position de la Première Ligue canadienne ou de One Soccer, est-ce que je voulais vraiment débuter une ligue avec cette équipe pour commencer? Ou est-ce que je voulais vraiment débuter une ligue avec 3 mois de travail acharné, mais pas non plus de je dirais, une équipe assez grosse pour pouvoir avoir les moyens de répondre à ses propres ambitions. Et je pense que c'est un peu ce qui a manqué à la Première Ligue canadienne, c'est du temps et des ressources dans le temps et pas juste se dépêcher pour tout faire, malheureusement.
Parce que tout a été fait assez rapidement. Mais c'est...
Trop rapidement.
À mon avis, il y a eu beaucoup de rien et de... On prend notre temps. Et on dirait qu'ils ont trop pris leur temps pour ensuite se ramasser dans une situation où... Il restait plus de temps.
Je pense que c'est un petit peu le... C'est pas qu'il y a un soft launch puis qu'il y a un hard launch. C'est deux expressions anglophones qui disent pas comme un... Je dirais, on part pas une compagnie tranquillement pour éventuellement pouvoir la grossir et avoir cette ligue plus grosse. Je pense qu'ils l'ont parti cette année parce que les opportunités étaient là. Il y avait les propriétaires intéressés qui étaient là, qui étaient prêts à mettre de l'argent maintenant. Donc, je comprends pourquoi ils ont commencé tout de suite, mais... Cette ligue va grossir à tous les points de vue. Et ça inclut les bureaux de la ligue. On a donné un petit peu les fleurs et les pots à la ligue pour le manque de faits français, mais je pense que ça va s'en venir aussi dans le futur, lorsque ils auront une croissance d'équipe, mais surtout de couverture, et lorsque on arrivera déjà cet automne. Je pense que cet automne, nous allons déjà avoir beaucoup de différences dans cette ligue, et en espérant que le fait français sera étudié et corrigé d'ici l'automne.
C'est ça, mais c'est aussi le challenge de se fier ou d'avoir, de mettre pas mal toutes ses œufs sur une plateforme web.
Ouais.
Tu sais, oui, on est en 2019. Oui, la Premier League, la Ligue des champions de l'UEFA est sur une plateforme web maintenant au Canada. Mais dans un certain sens, ton audience globale, ton viewership, il n'est pas nécessairement tout sur une plateforme web. Uh-huh. Si je peux me faire une plug moi-même, on en a parlé la semaine dernière sur mon podcast à moi de Scrum que j'anime avec Julian McKenzie.
Le CTV.
Où on parle de médias. C'est un podcast anglophone où on parle spécifiquement de médias et de médias sportifs. C'est toujours... C'est le débat qu'on va avoir dans les 6 prochains mois jusqu'à peut-être les 5 prochaines années. Les plateformes web spécialisées. Et là, je parle même pas au niveau sportif. Okay? Moi,
Netflix,
personnellement...
Hulu.
Moi, personnellement, là, je suis abonné à Spotify, Netflix, Amazon Prime, DAZN.
Qu'est-ce que t'écoutes sur Amazon Prime? Y a-t-il beaucoup de monde qui s'en
parle de ça? Je suis abonné sur Amazon Prime pour une émission et une émission okay. seulement. Ça s'appelle The Grand Tour. Je suis un gros fan.
Oh, ok. T'aimais Top Gear, t'es dans
le temps. Oui, j'étais quand même. Oui. Je sais que c'est pas une opinion très populaire. Mais.
Ah, c'est correct. Mais, Top Gear, c'est Top Gear. Grand Tour, c'est Grand Tour. Jeremy.
Oui, exactement. C'est ça. Mais c'est ça. Mais au final. C'est ça. Donc, DAZN, One Soccer, The Athletic, je peux même mettre ça là-dessus. Puis là, ça c'est même pas...
Patreon, si vous donnez à du monde.
Exactement. Si vous avez New York Times, New Yorker, tout ça. À un certain moment, on va savoir c'est quoi le plateau pour la personne moyenne qui veut avoir certaines informations. Parce que le concept de The Athletic, j'aime bien parce que ça ramène au front, dans un certain sens, ça ramène au forefront, si je peux utiliser l'expression anglaise.
À l'avant-scène.
Exactement, c'est le mot que je cherchais. Ça ramène à l'avant-scène le fait qu'il y a du monde derrière ce que vous lisez, il y a du monde derrière ce que vous écoutez, il y a du monde derrière ce que vous regardez. Et ce monde-là, souvent... font pas assez d'argent pour subsister à ce que vous êtes capable de... à ce que vous consommez. Il y a encore beaucoup de choses. Moi-même, Pro Soccer USA, la majorité de ce que moi je fais, c'est pas quelque chose qui est derrière un paywall. Mais j'aime le fait que ça ramène ça à l'avant-scène, le fait de « Hey, encourage le monde qui font du contenu que toi tu aimes. » Par contre... Là, on va être rendu à un moment où là, tout le monde commence à avoir ses propres plateformes. Et là, il va y avoir un plateau de « OK, il est où le nombre d'argent que je donne à tout ce que je fais, à tout ce que j'encourage? » Parce que c'est bien beau encourager tout le monde, mais tu peux pas nécessairement encourager tout le monde puis après ça, te revirer puis faire non. Comme « Ouais, faut que j'aille faire l'épicerie, faut que j'aille faire... » Fait que...
Il y a une saturation du marché qu'on est à... on va arriver dans... Si on n'y est pas déjà arrivé, on est prêt d'y arriver, je pense.
Exactement. Et là, on a One Soccer, on a DAZN.
Juste au Canada, là. Mettons, si on est fan de soccer canadien et qu'on veut écouter juste les équipes canadiennes, il faut trouver un moyen d'avoir un VPN ESPN Plus pour écouter l'Ottawa Fury puis la USL. Faut avoir One Soccer.
Attends, le Fury joue pas sur YouTube?
Je pense que c'est sur YouTube. Ouais, peut-être c'est sur YouTube. Absolument. Mais même, en tout cas, si on est fan de
mais
USL.
Reste ça, mais quand même.
Si on est fan de USL, c'est ESPN Plus. Peu importe, si tu veux écouter les matchs Charlotte Independence, faut t'aider un VPN, t'aider ESPN+. Ça, c'est une chose, mais juste au Canada, pour venir au Canada. Là.
Exactement,
oui. One Soccer, DAZN.
Oui.
Ça. Si on veut écouter l'Impact, c'est TVA Sport. On peut pas avoir d'autre choix que TVA Sport. Ou TSN, mais c'est pas tous les matchs de l'Impact sur TSN, puis là, on n'embarquera pas dans le débat Bell versus TVA Sport versus Vidéotron au Québec. Là.
Et là, ça va même jusqu'au fait, est-ce que toi, t'as une télé chez toi? Parce que si t'as pas le choix, si t'as pas de télé chez toi, il faut One Soccer, il faut The Zone,
TVA Sport Direct,
TVA Sport Direct
ou TSN Direct, qui est exactement la même chose. Et ça, c'est même pas le catalogue complet du soccer canadien. Là. Il y a encore des choses que si vous voulez écouter, comme la MPSL ou des choses, il faut avoir un autre moyen d'écouter. Et si vous êtes fan de d'autres choses, il faut avoir Flow FC ou c'est aux États-Unis, exemple, aux États-Unis présentement, si tu veux écouter les matchs de DC United, ça te coûte 175 ou FC Cincinnati, oui. $175 US par année pour Flow Sports. Là, tu as Flow FC avec aucun contenu ou presque à part les matchs de ces équipes-là sur demande avec une qualité piètre. Je dois dire, Flow FC, là, c'est pas. Flow Sport en général, ce n'est pas nécessairement un bonus pour le sport au complet aux États-Unis. C'est des moyens de production extrêmement bas pour des sports très de grande niche, que je dirais, comme la lutte amateur, genre.
Ouais, de lutte NCAA, ouais, là, dans ce sens-là. Mais c'est ça, pour fermer un peu la parenthèse qu'on faisait, est-ce que dans le landscape médiatique...
Le paysage médiatique soccer.
Mon Dieu Seigneur.
C'est correct qu'on s'habitue à faire en français.
Le paysage, ouais, c'est ça. Mais quand je disais au début que je suis content de pouvoir reparler en français, c'est un peu pour ça, oui. Mais dans le paysage médiatique, comment va faire One Soccer pour survivre? One Soccer, on l'a vu complètement clairement, et Oscar Lopez me disait ça justement sur The Scrum il y a un mois et demi. Eux, c'est que soccer, là. Ça va être ça. Et que ça, à moins d'un truc incroyable, là, ça va être... Bon, Ligue 1 Ontario qui s'en vient l'année prochaine.
Ouais, pas l'année prochaine. Je serais pas surpris de voir la PLSQ éventuellement sur cette plateforme aussi, là, si je me trompe pas. Là. Si on regarde, si on extrapole le paysage soccer canadien, là, on sait que la Canadian Premier League, Première Ligue canadienne, mais surtout Canadian Soccer Business, a acheté Ligue 1 Ontario. Et maintenant, les propriétaires de Ligue 1 Ontario... Et l'équivalent de la Ligue Ontario, c'est la PLSQ. Est-ce que la Canadian Premier League voudra s'impliquer avec les hautes sphères de la PLSQ lorsqu'ils feront leur entrée ici?
Mais là, ça reste à voir si Canadian Soccer Business serait intéressé à s'acquérir de la PLSQ. Est-ce que ça ferait grandir la PLSQ? Ben là, on peut pas nécessairement... En fait, dans un certain sens, on peut pas dire oui ou non parce qu'on n'a pas vraiment vu ce que Canadian Soccer Business a fait pour la Ligue 1 Ontario pour l'instant.
C'est pas commencé encore. On a eu une fin de semaine de match, c'est tout. Là.
Reste que... Oui, il y a beaucoup plus d'équipes en Ligue 1 Ontario. Donc, bon, reste à voir. Mais oui, je crois que c'est la suite logique. Et après, on a les matchs à la maison des équipes masculines et féminines canadiennes. Dans le lead-up vers la Coupe du Monde de 2022, ça va être intéressant.
Voir, c'est probablement sur One Soccer qu'on va voir Christine Sinclair battre le record de Abby Wambach.
Mais c'est ça qui est intéressant aussi parce que il n'y a pas la Coupe du Monde. Du côté féminin, ça risque d'être un peu moins intéressant que dans le lead-up de la Coupe du Monde de 2022 parce qu'après ça, on va être dans une année post-Coupe du Monde. D'après moi, il risque d'avoir un peu de mouvement, peut-être faire entrer un peu plus de jeunes. Normalement, c'est ça qui arrive après une Coupe du Monde.
Absolument.
Reste qu'avec le soccer féminin, il y a le lead-up vers les Jeux Olympiques. Donc là, il va avoir ça un peu à se mettre sous la dent.
Qui s'en vient à Tokyo en 2020. Et que le Canada pourrait avoir une équipe assez intéressante, surtout si on regarde les jeunes comme les Janine Becky. Et Fleming, Jesse Fleming aussi.
On n'a jamais eu autant de joueuses canadiennes qui signent dans des gros clubs étrangers.
Et ça, c'est d'autant des hommes que des femmes. Là.
Exactement.
C'est des femmes que des hommes. Je pense que le futur du soccer canadien est entre bonnes mains. Et ça va être plaisant de parler de soccer durant les prochaines années au Canada, je pense.
Tout à fait, oui.
Et même si on a chialé sur la Première Ligue canadienne, sur le fait français, on chiale sur les choses qu'on n'aime pas parce qu'on veut qu'ils soient bien faits dans le futur. Et je pense que c'est de là venait un petit peu notre tombée du jour.
Ben, qui aime bien, châtie bien. Hein?
Exactement. Donc, encore une fois, on voudrait rappeler que l'Impact a perdu 2-0 contre le NYCFC samedi dernier. Vous pouvez écouter les commentaires de Rémi Garde, Zachary Broguillard et Anthony Jackson-Hamel plus tôt dans l'émission aujourd'hui. Demain soir, contre le Red Bull de New York à New York. Et samedi prochain, contre le FC Cincinnati à 1h l'après-midi, 13h, contre le FC Cincinnati avec leur nouvel entraîneur au Nippert Stadium à Cincinnati. Vous pouvez suivre Tristan Amour sur les réseaux sociaux, @TristanAmour. Et Tristan, Pro Soccer USA, qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines journées?
Dans les prochaines journées, pas grand-chose parce que je suis pas l'Impact à l'étranger. Donc, c'est pas mal une semaine de vacances pour moi. Je vais définitivement regarder les deux matchs. Je vais définitivement avoir ça dans mon radar. Mais ça me laisse un peu de temps pour envoyer des emails, peut-être pour voir ce qui va se passer à Blainville, peut-être.
Oui, avec ce qu'il y aura diffusion ou non, est-ce qu'on aura un moyen de. Mais nous allons en parler, nous serons sur place. Donc
nous serons sur place.
Ça, c'est sûr, nous serons là, moi-même et Tristan Amour avec Alex Perez la semaine prochaine.
Reste à voir la langue pour laquelle je vais écrire.
Oui, exactement.
l'article de la semaine prochaine, mais si vous êtes sur place, venez nous voir, ça va nous faire plaisir de parler avec vous. Toujours un plaisir. Et oui, exactement.
J'espère que vous avez mis cette émission un petit peu plus longue que d'habitude, mais c'est ce qui arrive lorsqu'on est deux à parler. On a beaucoup plus à dire que lorsque je parle tout seul devant mon micro. Donc, je remercie beaucoup Tristan pour son temps aujourd'hui.
Ça me fait plaisir.
Et nous allons nous retrouver mardi prochain avec un nouvel épisode de Sur la transversale. Vous pouvez trouver les versions balado-diffusion de chaque émission que nous produisons au sportspodcastingnetwork.com, au baladoquebec.com ou partout où vous trouvez vos balados préférés. Mais comme d'habitude, pour Tristan Amour, moi c'est Kevin Laramé. Je vous souhaite bon soccer.